ou avoir des chutes sur radio. Check ça.
Radio. Bonjour.
Bonjour.
On est là ensemble pour parler de Saint-Sulpice-la-Forêt en 2045. Je sais qu'il y avait un atelier avant avec Damien Deville et Anaïg, a priori, tu y étais. Est-ce que par rapport à cette projection, tu peux nous dire ce qui s'est passé et en quoi l'atelier de tout à l'heure était en lien avec une possible projection ?
Alors c'est un peu à chaud, donc c'est pas facile hein, d'avoir tout de suite le recul sur ce qui s'est dit. On a pas mal échangé du coup avec Damien sur le lien qu'on entretient du coup avec notre environnement, notre territoire, et comment du coup ce lien en fait fait du coup territoire. Donc on est parti sur l'identité, qu'est-ce que c'est notre identité, est-ce que c'est le lieu où on habite, est-ce que c'est le lieu d'où on vient, voilà, on a posé un peu toutes ces questions, la culture, et tout ça du coup comment en fait avec ces différentes sont différents les vécus différents de chacun, en fait on arrive à se dire qu'on vit sur un lieu, qu'on, pour certains qu'on appartient à un lieu, d'autres qui se sentent appartenir à nulle part. Enfin voilà, donc avec toute cette diversité, comment en fait on peut du coup se dire qu'on vit et qu'on fait territoire, en fait. Donc c'était un peu ça. Du coup, c'est des réflexions qui ont nourri, nous aussi, le projet de Saint-Sulpice, dans le projet urbain. On a travaillé beaucoup en démarche participative avec les habitants, aussi pour les interroger sur eux, leur vécu, comment ils vivent, en fait, le village et ce qu'ils ont envie d'en voir, ou comment ils ont envie de le voir transformer. Et du coup, voilà, c'est aussi en ça que ça fait écho au travail qu'on a pu mettre en place sur ce projet-là.
Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Oui, donc je suis Anaïg Pinson, je suis adjointe à l'urbanisme. C'est mon deuxième mandat et j'étais adjointe à la vie associative et vie sociale sur le mandat précédent, sur lequel on a commencé à travailler sur le futur du village.
Voilà. On va faire un petit tour de micro pour se présenter.
Moi, je suis Joanne Guichard, je suis architecte urbaniste et je travaille au sein de l'agence Johansson, qui est mandataire d'un groupement avec des paysagistes d'ici là et de Sétur et Scopic pour les thématiques de la concertation et de l'aménagement.
Et bonjour, moi je suis Thomas Prigent, je suis responsable d'opération pour territoire, qui est un aménageur qui intervient sur les communes qui font partie de la métropole de Rennes. Et donc, mon rôle d'aménageur, c'est d'accompagner la collectivité de Saint-Sulpice, là en l'occurrence, sur la réalisation du projet urbain et qui se concrétise avec la ZAC de Loret de la Forêt.
Bonjour, et moi, c'est Yann Huomé, je suis maire de Saint-Sulpice-la-Forêt depuis 2014.
Je pense que, Julia, tu avais une question sur un mot qui va peut-être revenir souvent.
Oui, moi je me posais la question si ZAC, ça jouait pour le Scrabble.
C'est un acronyme.
Voilà, en fait, c'est vrai que quand on arrive ici à Saint-Sulpice-la-Forêt et avec cette université du printemps, on apprend beaucoup de choses, et notamment des mots que moi, je connaissais pas forcément. Alors, il y a ZAC, voilà.
Il y a pluie.
Il y a pluie. Est-ce que ça se dit pluie ou...
PLUI.
Dit mouillé.
Tout à fait. Vous êtes, c'est votre travail, c'est votre projet ici depuis quelques années. Mais c'est vrai, quand on arrive,
j'entends un tout petit larcène. Je pense qu'il y a des niveaux à faire.
C'est vrai que quand ça va mieux là, quand on arrive, on doit un petit peu voilà, apprivoiser toutes ces dimensions un petit peu techniques. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette ZAC. Comment vous définiriez une ZAC ?
La vôtre.
Alors, je vais en parler parce que je suis sans doute la personne qui utilise le plus le mot ZAC. Au quotidien en tant qu'aménageur, et c'est vrai qu'à Rennes il y a beaucoup de ZAC, ou en tout cas dans la métropole rennaise il y a beaucoup de ZAC. En fait, c'est un outil opérationnel ou juridique pour réaliser un quartier d'aménagement. C'est un outil qui permet d'avoir une maîtrise foncière, de définir une programmation et de mettre en œuvre un projet urbain. Voilà, donc c'est purement opérationnel, très, très juridique. Il existe d'autres processus pour mettre en œuvre des projets urbains, comme des permis d'aménager, des lotissements. Voilà, c'est des noms que vous entendez aussi, qui sont peut-être un peu plus récurrents. Mais c'est vrai qu'à Rennes, on a l'habitude de dire on fait des ZAC. Voilà. Et PLUI, c'est plan local d'urbanisme intercommunal. Avant, il y avait des POS, des plans d'occupation des sols, qui étaient... régie uniquement par les communes. Après, il y a eu des PLU, plan local d'urbanisme, qui étaient aussi au niveau des communes. Et à Rennes, il y a eu le choix de faire un plan local d'urbanisme intercommunal qui est partagé à l'échelle de l'ensemble des communes de la métropole et qui définit en fait les règles d'urbanisme et de construction sur les différentes communes de la métropole.
Merci, c'est un petit peu plus clair pour moi. Du coup, ça veut dire qu'ici, à Saint-Sulpice-la-Forêt, on pense à la fois le local, très très local, et à la fois comment on est connecté aux autres communes, comment... Et alors, vous, à l'intérieur de cette dynamique, vous, vous arrivez quand même à innover, à proposer des choses qui ne se font pas forcément partout. Comment ça se passe, cette négociation, pour amener un projet parfois très innovant ou très original ?
L'avantage de la ZAC, maintenant qu'on a dit ce que c'était, c'est la capacité de la commune à pouvoir aborder le sujet de l'aménagement d'une manière un peu transversale. C'est-à-dire que avant, on pouvait dire qu'on pouvait faire des aménagements par plaque. C'est-à-dire qu'on avait une opération, on avait une opportunité d'acheter un terrain et puis on faisait un lotissement. Et les choses se sont faites un peu comme ça par le fil de l'histoire. Et l'avantage d'avoir une approche multisite, donc, c'est qu'on a réfléchi pendant plusieurs années avec les habitants, avec les élus, avec des urbanistes, à regarder en fait comment fonctionnait la collectivité, donc la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, et comment les futurs logements pouvaient venir apporter des réponses d'aménagement avec l'existant, comment ça se connectait, comment on pouvait créer des enjeux de mobilité, de renforcement des services, des commerces, comment la question du lien social, la question de se rencontrer, comment finalement l'aménagement participe à la vie de la commune. Et l'avantage de cet outil-là, c'est qu'en fait, il y a une approche générale globale, en fait, il y a une cohérence d'aménagement, et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là. Et en plus, on est en territoire public. Quel aménageur ? C'est un aménageur public. Ce qui veut dire qu'on a une complète transparence dans la coopération et le travail qui est fait. Et effectivement, votre question, elle est intéressante parce que le travail qu'on fait à Saint-Sulpice, il s'inscrit évidemment dans une aire métropolitaine avec une attractivité, avec un bassin d'emploi qui est fort, qui est riche, avec une démographie qui est encore dynamique, même si elle tend un petit peu à freiner dans les années à venir. Et donc, on devait aussi, dès 2014, amener des réflexions sur le fait que la commune allait participer à accueillir des nouvelles populations sur le territoire métropolitain et même sur l'aire urbaine de Rennes Métropole. Et participant à cet accueil de nouvelles populations, dans leur diversité, c'est-à-dire des gens qui vont chercher plutôt du logement social, on a 36 000 demandes de logement social en attente à l'échelle de la métropole, comment on allait pouvoir participer à accueillir des nouvelles populations dans toute leur diversité. Et donc ce travail-là, qu'on a fait depuis 10 ans finalement, c'était de se dire comment ce sujet démographique, ce sujet d'accueillir de la population dans un bassin avec les questions de mobilité, les questions d'emploi, les questions d'impact sur l'environnement, sur la place de l'eau, la place du vivant, comment ça atterrit dans une commune qui a son histoire, qui a une histoire d'aménagement, qui a son histoire, son identité propre, qui a ses imaginaires sur c'est un village, donc on nous parle de village métropolitain parce qu'on veut garder une identité de village, une identité de proximité, une identité de faire rencontre, une identité de se tutoyer dans la rue, de se dire bonjour, d'avoir des petits commerces de proximité, d'avoir une vie associative forte, tout en étant conscient que 87% des actifs de Saint-Sulpice-la-Forêt travaillent à Rennes. Et donc, on est évidemment dans une interaction entre l'échelle locale et le global. Et quand je parle global, c'est aussi des trajectoires sur le bas carbone, sur le réchauffement climatique, les problématiques sociales et économiques. Et donc, on ne peut pas se dissocier, même si on est un petit village où on aimerait être sous cloche. En fait, on ne peut pas être sous cloche. Donc, il faut qu'on intègre ces sujets-là dans une approche, dans une approche beaucoup plus générale, qui en fait se situe dans un temps.
Alors justement, par rapport à ça, ça fait depuis 2014 que vous pensez ces projets, il me semble. Et c'est pas forcément évident ou confortable de se poser la question de comment est-ce que ça sera en 2035, 2045 ou plus loin. Tout à l'heure, nous, pendant la radio, là, on diffusait un journal qui a été fait ici, écrit ici par plusieurs personnes, par plusieurs habitants, habitantes, qui pensent la mobilité à vélo, par exemple. Mais donc, on imaginait, par exemple, des métiers sans pétrole ou des métiers où l'électricité, dans un avenir où l'électricité serait intermittente. Et donc, tout à l'heure, on imaginait un pédaleur ou une pédaleuse professionnelle qui serait là pour faire la machine à laver des autres, qu'on pourrait embaucher pour faire la machine à laver des autres. Ou un réveil matin qui serait une personne à laquelle on pourrait demander de chanter, ou alors crieuse de rue qui existait déjà. Et les réveils matins, ça existait aussi. Dans la rue, il y a des personnes qui criaient le matin pour réveiller les gens. Ou alors éducateur, éducatrice de pigeons voyageurs. Enfin, il y a des choses à penser à partir de là. Mais c'est pas forcément confortable de se poser ces questions-là. Comment est-ce que vous vous êtes posé la question ? Quel scénario vous avez imaginé, vous, pour 2045 ? Comment vous avez adapté la ville par rapport à quel scénario ?
On va faire deux temps. Je peux donner un début, puis je pense que Joanne, après, peut donner complètement la suite. La responsabilité du politique, c'est d'essayer de se poser des questions que l'on ne se pose pas au quotidien. C'est-à-dire qu'imaginer la ville en 2045, on ne rentre pas le soir chez soi en se disant « Oh là là, ce soir, je vais passer tout mon temps et mon énergie à essayer de penser 2045 à Saint-Sulpice-la-Forêt ». Donc ça, c'est la responsabilité qui nous a été confiée, c'est de préparer l'avenir et d'être garant de l'intérêt général. Donc quand on a imaginé ça, on a travaillé sur deux aspects. Le premier, qui fait un peu le socle de notre réflexion, c'est qu'on s'appuie sur la science. Même si on est dans une société aujourd'hui où on a des grands décideurs mondiaux qui sont dans des postures de remise en cause des grands bouleversements du temps, nous, on est plutôt parti du fait qu'il y avait assez de connaissances aujourd'hui qui devaient nous nourrir sur quels étaient les grands enjeux. Donc on a tenu compte d'abord dans ces scénarios-là de se dire, bah voilà, 2045, il se passe quoi ? Donc, quand on prend les scénarios qui ne sont pas disruptifs, hein, qui sont juste 1500 chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, bah, on sait qu'on a des petits changements climatiques qui vont arriver. On sait que le tout pétrole, le tout énergie carbone, bah, ça va quand même légèrement se tarir. On sait que l'ultra-mobilité accélérée, il y aura un frein. Et on sait aussi que globalement, la place de l'eau, la place de l'arbre, la place du vivant, la place de la biodiversité, elle a aussi été un petit peu... en tout cas, il faut remettre un petit peu le vivant au cœur de nos réflexions. Et on sait aussi qu'il y a des fractures sociales et qu'il y a besoin de s'occuper des plus pauvres, il y a besoin de s'occuper des plus exclus, ce qu'on pourrait appeler les invisibles. Et donc ça, c'est des postulats de départ qui ne sont pas partagés par tout le monde, loin s'en faut, et encore plus aujourd'hui, en 2025, s'il y a besoin de remettre le sujet dans le contexte, le jour où dans 100 ans, on écoutera cet enregistrement. Et donc de se dire, bah, posons ça comme postulat de départ, regardons ce que ça a créé comme imaginaire, et au lieu de voir ça comme une rupture avec un effondrement sociétal, voyons ça comme une opportunité de réfléchir et de repenser les modèles. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit. Et le travail qu'on fait, et on le fait sur deux publics. Le premier public, c'est les habitants, c'est comment on crée des imaginaires, et comment on essaie de faire des récits positifs sur les conduites de changement.
et de se dire que le changement de modèle n'est pas forcément un effondrement, mais c'est juste un changement. C'est-à-dire que le modèle de la maison individuelle, il s'est construit dans les années 60 sur un modèle industriel économique qui s'affairait, mais avant on faisait autrement, et je ne suis pas sûr qu'avant c'était moins pire. Et enfin, le deuxième interlocuteur, et là ça fait un petit rebond avec Joanne, c'est qu'il nous faut des gens qui permettent de travailler ces imaginaires et de les transformer en plan, de les transformer en aménagement, en transformation de la ville. Et c'est à ce moment-là que les urbanistes, les paysagistes, les personnes qui nous aident à transformer une idée en territoire, en aménagement de territoire, interviennent.
Un organisme comme l'ADEME s'est posé la question depuis quelques années à projeter ce qui serait 2050. L'ADEME, un acronyme. ADEME.
Oui, encore un acronyme.
L'agence de développement, en gros, l'approche écologique et environnementale du développement des territoires et de l'aménagement. Quoi.
Merci.
On va le dire comme ça, et du bâtiment. En tout cas, ils ont établi plusieurs scénarios pour 2050. Il y en a quatre qui sont définis et qui ont été présentés et qui ont été étudiés à la suite d'années de recherche. Le premier scénario, il est basé pour une neutralité carbone, c'est-à-dire les accords de Paris en 2050. Il est basé sur la frugalité, c'est-à-dire on réduit nos émissions, on réduit nos consommations. Et donc chacun des thèmes est déployé sous l'angle économique, sous l'angle de la consommation des ressources, sous l'angle de la mobilité, du travail, etc. Globalement, on se dit qu'on doit consommer moins pour vivre mieux. C'est ça la trajectoire. Le deuxième scénario, il est basé sur les coopérations. Et on pense qu'avec ces deux scénarios-là, on peut imaginer que l'on peut tenir cette trajectoire 2050. Le troisième scénario, il est basé sur, des pratiques un peu tempérées entre les deux, mais quand même, l'espoir reste ce qu'on appellera le techno-solutionnisme, quoi. C'est-à-dire la technologie va nous sauver. Même si la science nous guide, là, on est plutôt basé sur l'idée qu'on a toujours trouvé des solutions. C'est la modernité qui nous a emmené ça. Alors, tu as trouvé la définition de l'ADEME. On va pouvoir le repréciser. Et comme je n'ai pas mes lunettes, mais j'y arrive quand même, parce que tu as grossi. Non, c'est bien, c'est cool. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Merci beaucoup.
Un support. Donc, on s'aperçoit que finalement, on pourrait croire qu'on est capable, dans les différents scénarios, de compter sur nos savoir-faire depuis toujours pour y arriver, quoi. Finalement, c'est la croyance que si on se base sur notre expérience, on va y arriver. Mais on s'aperçoit, si on a pris conscience de la finitude du monde, là, que finalement, il va falloir plutôt se re-questionner sur les modèles et les façons de faire ensemble pour avoir un scénario qui soit porteur d'un projet qui soit heureux, quoi. Tout un mouvement qui travaille sur la frugalité heureuse. Il est basé sur la coopération. C'est pour ça que le travail qui se mène ici, il est guidé par une compréhension des enjeux, des modifications du climat, par exemple. La question de l'eau est essentielle, à la fois parce qu'une année, c'est une ressource que l'on cherche et qu'on a du mal à capter. Et puis une autre année, c'est des quantités de pluie régulières et intenses qui perturbent complètement nos aménagements. Donc ce que ça donne comme trajectoire, c'est qu'il faut intégrer l'aléa, il faut intégrer la possibilité de turbulence comme des moteurs de projet pour inventer les nouveaux scénarios, plutôt que de subir ou de réagir ou de composer avec les habitudes que l'on avait déjà. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment comment il faut faire. Alors l'idée du projet, c'est de prendre les précautions ou de se donner les marges de manœuvre ou de se dire finalement qu'il faut anticiper des phénomènes qu'on n'avait jusqu'à présent pas anticipés parce qu'on était basé sur l'expérience seulement. Alors on peut garder la confiance qu'on va savoir faire, ça c'est sûr qu'on peut rester dans un scénario optimiste de l'adaptation, mais on ne peut pas gommer quand même l'idée qu'il va falloir continuer d'essayer d'atténuer, quoi, nos impacts. Il faut combiner ces deux stratégies-là. Et on entend parfois, effectivement, dans une vision assez pessimiste, « Ah yeah, on est à 4 degrés, donc maintenant on n'est plus que dans de l'adaptation ». Il faut continuer de penser qu'il va falloir atténuer toujours notre impact. Donc la démarche d'aménagement, elle est là pour poser des conditions qui parfois ne seront résolues que dans une dizaine d'années, au mieux, ou moyen terme et long terme. Ça veut dire que là, on est très concrètement dans une stratégie où il faut penser global et agir local, quoi.
Et donc depuis, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Donc ce projet, on parle beaucoup de projet. Et là, on est à un moment un petit peu charnière, je crois, où cette incubation du projet, toutes ces réflexions, cette concertation, et là, ce moment culminant là, de 2025, Université du Printemps. Maintenant, on est un petit peu sur une bascule. On va passer à une part... comment on pourrait passer d'un projet à une concrétisation? Il y a des choses là qui vont commencer à se mettre en place. En me baladant hier, en prenant du son un petit peu partout, j'ai vu qu'il y avait des travaux. Comment vous le sentez, vous, cette nouvelle étape de concrétisation?
On y croit. En fait, c'est parce qu'on est plusieurs. D'abord, c'est parce qu'on est plusieurs autour de la table qu'on y croit. Si on pense que travailler le futur, c'est l'œuvre d'un, je pense que ça peut. Je sais pas, ça serait qui le un, mais je pense que c'est un peu trop gros. Donc, il n'y aura pas d'homme providentiel. Par contre, il y a sûrement une intelligence collective à trouver pour que du coup ça se passe. Donc La phase dans laquelle on est, c'est qu'on est aujourd'hui, on est venu rassembler 3 ans de travail, 3 ans de co-conception, 3 ans de collaboration, 3 ans de coopération intense sur 4 axes d'innovation. Le premier, qui est la réponse à ce que vient de dire Joanne, c'est-à-dire si on doit construire bas carbone en limitant l'impact de la construction, on s'est dit que le point de départ, c'était que le premier déchet qui est produit en volume et en poids par la métropole, qui est la terre, parce qu'en fait, pour faire la construction aujourd'hui, on parle de terre excavée. Et puis après, on prend des camions et puis on les amène très loin. Puis on a d'autres camions qui vont prendre du sable et du gravier très très loin pour les ramener, pour refaire le sol. Ça, c'est le modèle de la construction voirie bâtimentaire. Et c'est le premier déchet qu'on produit. Donc on s'est dit, si on prend la terre non pas comme un déchet, mais comme une ressource, on peut complètement réinterroger le modèle. Et pour ça, on est 17 autour de la table. Donc il y a des économistes, il y a des urbanistes, des architectes, il y a des bureaux de contrôle, il y a des promoteurs, il y a des aménageurs, il y a des gens qui travaillent les assurances, il y a des terreux armoricains, il y a des universitaires, il y a des chercheurs. On met tout ce beau monde-là autour de la table en se disant, si demain on doit construire différemment, comment on fait en tenant compte de la réflexion de chacun. Et en fait, c'est ça qui donne de l'espoir sur l'opérationnalité, c'est que dès le début, on a mis tout le monde autour de la table pour dire comment on fait. Donc, comment on pense d'abord, et puis après, comment on fait. Donc on a mis directement la notion de réalisation dans la conception. En tout cas, de l'intelligence collective pour prendre et la recherche scientifique sur le sujet et en même temps la réalité des maçons et des maçonnes qui ont, eux, le savoir-faire dans les mains et dans l'esprit. Et enfin, le deuxième, donc ça donne de l'espoir parce qu'en fait, dès le début, on s'est dit il faut qu'on arrive à opérationnaliser quelque chose. Et le moment où on est, on vient de se rendre compte qu'on y arrive. En fait, c'est faisable. Alors, effectivement, il y a des coûts qui vont derrière, il y a de l'ingénierie derrière, mais finalement, on sait que ça va être réalisable. Le deuxième gros projet, c'est celui d'une boucle d'autoconsommation collective. Et là, de la même manière, on a été chercher c'était quoi l'état de l'art aujourd'hui et comment on pouvait intégrer des citoyens, des habitants dans une production de photovoltaïque. Et de la même manière, on a été regarder est-ce que les habitants aujourd'hui étaient motivés, avaient une certaine appétence pour un sujet comme celui-là. On a eu plus de 50 personnes à chaque atelier avec des gens qui nous disent oui, nous on aimerait bien faire, mais par contre c'est complexe. Donc le sujet qu'on a et qu'on a travaillé pendant 3 ans, c'est en fait comment on vient décomplexifier. En fait, je pense qu'une grande majorité des gens sont acquis au sujet de il faut changer. Sauf que si on renvoie la responsabilité à chaque individu de la conduite du changement, ça sous-entend que chaque individu a la capacité en propre et le sujet il n'est pas individuel, il est collectif. Et c'est ça le grand paradigme a changé, c'est que la responsabilité du changement, elle ne doit pas être individuelle, mais elle doit être collective. Donc il faut que nous, en tant que collectivité, en tant qu'aménageur, en tant qu'urbaniste, on facilite la conduite de changement. Et sur le photovoltaïque, c'est un très bon exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des initiatives individuelles, mais il faut que si on veut passer à certaines échelles, il faut qu'on vienne faciliter l'accès, en fait. Il faut créer des passerelles, il faut créer des ponts pour pouvoir changer les modèles. Le troisième axe, c'est celui des questions des commerces et des activités en cœur de bourg. Vaste sujet, on en a discuté pendant 2 jours aujourd'hui. C'est quoi la réalité du me ? C'est qu'en périurbain, en milieu rural, aujourd'hui, les commerces y ferment. En 2010, il y a eu toute la politique des vrac, du bio, du local, etc., qui a très, très bien marché. Pendant le Covid, tout le monde s'est réveillé en disant « Oh là là, comme c'est formidable d'avoir du commerce de proximité, du commerce local avec des producteurs locaux ». Et puis tout le monde est revenu à ses mauvaises habitudes. Et puis aujourd'hui, avec le prix de l'énergie, avec le prix du foncier, etc., etc., ce modèle-là est en fait en train de est très abîmé. Enfin, je ne dis pas qu'il est en train de disparaître, mais en tout cas, il y a vraiment des fermetures importantes qui se font dans le périurbain et dans l'urbain, alors que nous, on réfléchit à la politique de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'un quart d'heure à pied, comment on fait pour avoir tous les services qu'on peut appeler les services socles d'intérêt général minimum qu'on peut avoir. Donc là, la question qui est posée à Saint-Sulpice-la-Forêt, c'est comment on fait pour réimplanter de l'activité commerciale avec des questions foncières, avec des questions de modèle économique et puis de réfléchir à des coopérations. Donc comment la complexité du monde à nouveau, parce qu'il faut être commerçant, il faut être boulanger, mais en même temps, le boulanger, il faut qu'il gère de la comptabilité, il faut qu'il gère du logiciel, il faut qu'il gère des loyers, il faut qu'il gère du personnel, il faut qu'il gère de l'approvisionnement, il faut qu'il gère des commandes, il faut qu'il gère des ouvertures, il faut qu'il gère des bureaux de contrôle, il faut qu'il gère des évaluations. Et donc en fait, c'est encore un mouton à 5 pattes. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que la complexité du monde, on peut créer des coopératives qui permettent de venir simplifier ça, de pouvoir déléguer tout ou partie par de la coopération et que finalement, chacun dans sa compétence est concentré sur ce qu'il a à faire et que le reste, à nouveau, c'est le collectif qui porte. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de trouver. Et le dernier axe, c'est de se dire que toute cette grande histoire qu'on veut réécrire, c'est des habitants et des habitants, c'est des citoyens. Et que si on veut que ça fonctionne, il faut que les gens y croient. C'est-à-dire que si on fait des commerces mais que personne vient consommer, le modèle n'existe pas. Si on pense qu'il faut modifier la manière de vivre et qu'il faut repenser l'imaginaire et qu'on fait des petits collectifs en cœur de bourg, là où avant c'était des grandes parcelles de 3000 à 5000 m² avec une maison au milieu, ça change la manière de percevoir la commune, ça modifie son paysage. Et donc, il faut travailler ensemble sur se dire c'est quoi qui fait paysage, c'est quoi qui fait changement et c'est quoi le sens qu'on y donne et qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'humain qui vient remplacer le confort individuel ou matériel qui était le modèle dominant antérieur. Et ça, c'est du coup une histoire qu'il faut animer, organiser, partager. Et donc, c'est aujourd'hui, en tout cas, je crois, les universités de printemps, elles viennent en tout cas poser ça. Et on a 2 ans d'histoire, moins 3 ans là de travail, qui nous font penser que ça peut fonctionner. En fait, en tout cas, il y a suffisamment de bilan de ces 3 ans d'études qui nous donnent de l'espoir de dire que ça va pouvoir se mettre en opérationnalité. Alors, je suis désolé, la réponse elle est un peu longue, mais finalement, c'est difficile de raconter 3 ans de travail en quelques secondes dans un monde qui est de plus en plus compliqué, quoi.
Moi, je me demande, parce que ça revient souvent, c'est l'individu par rapport au collectif. Et y a une fabrication du collectif, ou en tout cas une animation du collectif ici, et de la coopération. Mais je me pose la question par rapport au découpage des territoires ici, le fait que vous soyez très lié à Rennes, beaucoup lié à Rennes, et qu'il y ait d'autres communautés de communes autour. Mais comment est-ce que le lien se fait avec autour, Chanet, Moisé, même Chevenier, Béton? Est-ce qu'il y a du lien? Comment est-ce que c'est possible d'en faire? Est-ce qu'il y a un enjeu aussi là-dedans? Liffré?
Vaste question. On ne peut pas répondre, après je redonne la parole sur la question de l'aménagement, parce que je pense qu'il y a une question de comment on fait coopération avec les territoires, et puis après il y a une vraie question d'aménagement.
Cette question aussi parce que j'ai l'impression que pour se projeter en 2045, il y a aussi besoin de se poser ces questions-là.
Cette question, elle intervient dans un processus qui a démarré en 2015, qui était une pensée universelle, européenne, mondiale, qui était la compétition des territoires entre eux et qu'on considérait que pour pouvoir avoir des territoires attrayants, il fallait mettre les territoires en compétition entre eux et on a créé des métropoles. La métropole, c'était l'idée même, c'est le principe du capitalisme, de l'économie marchande mondiale, c'est-à-dire que si on mettait les territoires en compétition entre eux, on pourrait créer des pôles de compétitivité où il y avait des excellences territoriales qui se créaient et l'excellence permettait de baisser les prix et du coup de créer du marché mondial. Ça, c'est le principe universel de la pensée, de la mise en compétition et du coup la rationalisation par l'expertise territoriale. Et la métropole, les métropoles ont été pensées comme ça. Ce qu'on est en train de faire à l'échelle de la métropole de Rennes, je suis aussi vice-président de la métropole, donc je vois bien comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est qu'on est conscient de la coopération intercommunale. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour venir atténuer ce fait métropolitain. Et c'est un fait qui est construit, c'est pas un fait qui est arrivé comme ça avec un petit nuage en disant là, les métropoles vont venir grossir et faire des pôles d'attractivité. C'est qu'en fait, c'était un concept qui a été défini. Et donc, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est effectivement de repenser la question des équilibres territoriaux. Donc, de dire, même si la métropole reste un pôle d'attractivité, comment on coopère à nouveau avec les intercommunalités autour sur des questions d'aménagement, sur les questions de mobilité, sur les questions de commerce, sur les questions d'implantation des industries, des activités économiques, pour que on vienne pas faire, nous, qu'on n'ait pas la problématique majeure du manque de... dans une culture du zéro attractivisation nette, un petit ZAN, un nouvel acronyme, mais de dire comme on ne fait plus d'extension, de construction d'extension, bah comment on se partage le territoire et comment on fait pour qu'on coopère ensemble. Donc c'est pris en compte, mais ça se gère à des échelles beaucoup plus grandes que juste celui de la commune. Je pense que c'est un sujet qui est majeur.
Juste pour préciser, il y a des instances en fait dans lesquelles ces coopérations sont travaillées. À l'échelle du Pays de Rennes, par exemple, ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et du coup qui travaille en fait sur justement cet équilibre que au niveau aménagement commercial, etc. À l'échelle du Pays de Rennes. Puis après, bon, on peut remonter encore à l'échelle au-dessus, département, et puis la même chose à l'échelle de la région. Voilà, donc ça c'est pour répondre, voilà, en disant qu'il y a des instances. Après, au niveau, enfin moi dans ce que j'entends dans la question, c'est aussi factuellement, à Saint-Sulpice, qu'est-ce qui existe comme coopération sur les territoires frontaliers, entre guillemets. On est très en lien avec l'IFRE. La commune de Liffré, puisque tous les lycéens et collégiens en fait vont à Liffré. Et puis on travaille aussi régulièrement avec Chanet. Chanet, c'est au bout de la rue, c'est voilà, juste là. Donc on a un projet, par exemple, sur de l'habitat participatif avec la commune de Chanet. Donc oui, il y a des choses qui existent. Après, effectivement, on n'est pas dans la même communauté de communes. Donc des fois, il y a des complexités d'ordre juridique. Voilà, on a essayé à un moment de faire quelque chose au niveau social sur des navettes pour que les gens puissent aller à Liffré, etc. Mais du coup, ça amène beaucoup de complexités. Donc tout n'est pas toujours facile à faire. Voilà.
Et oui, quand on a fait la fresque des nouveaux récits, on a essayé comme ça de déconstruire cette idée de compétition pour se dire, bon, bah, en fait, voilà, regardons les récits qui nous construisent et qu'on a peut-être besoin de regarder, de modifier pour permettre l'émergence d'autres réalités. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à Saint-Sulpice, il y a cette idée participative, que les habitants et les habitantes ils puissent s'exprimer, mais aussi proposer des choses, être à l'initiative et accompagner vraiment tous ces changements. Moi, j'ai hâte, j'ai pas trop l'habitude de dire ça, mais j'ai hâte d'être dans 10 ans ou dans 20 ans, voir toutes ces nouvelles mêmes générations, les enfants qui grandissent ici, qui ont participé à la fresque, qui vont peut-être apprendre, on ne sait pas, des nouveaux métiers et qui vont vivre ici ces changements. C'est un endroit où on a la possibilité de regarder vers l'avenir en paniquant peut-être un petit peu moins. Vous en pensez quoi? Vous avez l'impression d'insuffler quelque chose de l'ordre de l'espoir?
Le fait que ce soit possible d'en parler aussi, enfin, ça lève des tabous, enfin, des tabous qui peuvent être liés à des peurs, j'imagine, le fait de pouvoir parler de ces sujets-là.
J'ai envie de dire oui, parce que voilà, je pense qu'on le fait aussi pour ça, en se disant effectivement qu'on continue à construire l'avenir et qu'on n'a pas juste envie de subir en fait ce qui va se passer. Yann, tu veux rajouter quelque chose?
Je crois que si vous évoquiez les nouveaux récits, il y a aussi à déconstruire on parlait des modèles, mais la façon dont on a aménagé les villes, la façon même dont on a conçu les règles pour pouvoir voir à quoi on donnait de la valeur, quoi. D'accord, beaucoup de règles d'urbanisme sont basées sur la valorisation foncière et c'est basé, ça dit quoi? Ça dit combien de mètres carrés je vais pouvoir construire à partir du terrain que j'ai là. Donc le modèle, il est basé sur la rentabilité, d'accord, la performance économique, hein, de ce que je vais pouvoir produire. On est dans des produits d'habitat. C'est-à-dire que la déconstruction principale, elle est de savoir tout simplement à quoi on revient avec un certain bon sens, c'est-à-dire revenir au projet. Au projet, et c'est ce qui se construit ici. Le projet d'habitat, le projet de vivre ensemble, le projet lié au territoire, l'idée de communauté, des mots comme ça, des fois qu'on... Enfin, honnêtement, hein, qu'on a parfois complètement gommé parce qu'on s'est intéressé qu'à la rentabilité économique et l'aménagement comme la promotion immobilière sont des métiers qui ont rapporté beaucoup d'argent. Donc, sans vouloir faire de la... Si en voulant faire de la politique, je crois que l'aménagement, il faut qu'il revienne très clairement au sujet qui est politique. C'est-à-dire pour quoi faire, quoi. Et pour qui, quel est le besoin. Et pas quelle est la performance. Et donc, la question des valeurs, on parle tout le temps, c'est aussi ce qui rassemble les gens. Et pourquoi on va se sentir bien et pourquoi on sera rassuré d'être ici. Peut-être parce que la réponse qu'on va formuler ou les inflexions qu'on va suivre, elles vont revenir à des fondamentaux, quoi, des approches très simples. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours à conceptualiser et que peut-être si par le processus de projet qui se met ici en place, on fait assez vite, c'est très très long tout ce qu'on se raconte, on aura des démonstrations assez concrètes des changements qu'on peut opérer. Et des fois, ça passe par pousser la voiture... désartificialiser les sols, redonner de la valeur à l'espace public, lieu d'usage et pas que lieu de déplacement. On n'est pas là que pour gérer des flux. L'aménagement, il peut être très technique. Hein. On tire des réseaux, on fait de la densité, on chiffre, on évalue, on répond à des quotas, à des règles. Et là, on est en train de se dire que si on veut porter un récit, il faut partir d'autres valeurs et d'autres démarches et donc commencer par parler, quoi. Et peut-être aussi s'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que les élus écoutent et ont envie de dialoguer. Et là aussi, il y a beaucoup d'endroits où l'aménagement il s'est fait par des élus qui étaient des maires bâtisseurs, par exemple, hein, qui voulaient marquer leur commune. Alors, donc, il y a eu beaucoup de clichés et il y a eu certainement beaucoup de maladresses mises en place. On va dire maladresse, c'est chouette comme terme, dans les années précédentes.
J'ai l'impression... C'est peut-être un endroit épineux et je connais peut-être pas assez la question. Mais par rapport aux maires bâtisseurs, il y a souvent des intérêts privés quand même qui se jouent et beaucoup de choses qui se font sans que les habitants soient consultés ou en tout cas des choses étranges qui se passent par rapport à des intérêts privés. Bon, moi, c'est ce que je perçois en fait. Et en fait, le fait que des moments, des instances démocratiques dans un village soient ouvertes, j'ai l'impression que ça permet de mettre des gros cailloux dans la chaussure de personnes qui voudraient servir des intérêts privés en étant à la base au service des habitants et habitantes.
Ouais, je sais pas. Ça dépend d'où on parle. En fait, je pense qu'il y a quand on parle de démocratie, on travaille deux modèles en parallèle. En fait, on a le modèle de la démocratie représentative. Et dans la démocratie représentative, dans ce que vous dites, il y a finalement une question. C'est est-ce que les représentants élus par le peuple sont transparents dans les décisions qu'ils prennent? C'est de ça dont il s'agit. C'est pas le fait qu'ils prennent des décisions, parce qu'en fait, ils ont été élus, ils ont un droit de révocation. Moi, je tiens beaucoup au droit de révocation, par exemple. Je pense que le fait de pouvoir faire des choses et en rendre compte fait que si vous le faites mal, au bout de 6 ans, on vous explique que finalement, c'était bien, mais pas tant que ça. Donc, on a sûrement un devoir de transparence et ceux qui ne sont pas transparents peuvent être effectivement jugés comme étant d'intérêt privé ou en tout cas d'intérêt individuel. Donc nous, je pense qu'on n'est pas dans ce modèle-là, on a un devoir de transparence, et donc ça, c'est le propre de la démocratie représentative. Après, il y a un deuxième sujet, qui est celui de la démocratie directe, qu'on essaie de traiter également, mais qui n'est pas en contradiction, qui est juste en fait une dynamique parallèle. C'est-à-dire qu'on pense que même si on est élu pendant 6 ans, on a une nécessité de pouvoir interpeller, de pouvoir co-construire, de pouvoir des fois même co-décider avec les habitants des grands sujets, et la responsabilité finalement des élus, c'est de co-construire avec les habitants le futur de leur territoire et de leur lieu de vie. Parce qu'en fait, quand on parle de territoire, finalement, un territoire, c'est juste le fait qu'on habite un espace, qu'on a, par le fait de l'habiter, une obligation de partage. Et donc, si on le partage, la question, c'est comment on définit les règles pour partager le présent et le futur. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, on essaye de trouver des espaces où, quand on doit penser le présent et le futur, c'est la capacité à chacun et de chacun à leur proposer une méthode, un espace, un outil, une animation, une façon de rentrer en relation qui passe par la culture, qui passe par une réunion publique, qui passe par un atelier, qui passe par la disponibilité des élus à discuter, qui passe par des journées comme aujourd'hui où les experts qui nous accompagnent sont à disposition des habitants pour leur donner l'ensemble des éléments. Et ça fait l'intérêt général, je suis bien d'accord. Mais après, quand nous parlions des modèles économiques qui sont sous-jacents, évidemment que les élus sont normalement les défenseurs de l'intérêt général. Et il y a dans la relation au monde des rapports de force. La démocratie, c'est accepter le fait que... donc c'était Paul Ricoeur qui disait ça. C'est une démocratie, c'est une structure qui... Bon, c'est une société qui se reconnaît divisée, animée par des contradictions, où chacun, à part égale, peut participer à l'élaboration des choix, à l'élaboration de l'analyse et l'étude des propositions et à leurs décisions. Et c'est de ça, c'est ça qui nous anime. C'est ça qui vient aujourd'hui construire la manière dont on fait de la politique. Après, ça ne veut pas dire que le monde tel qu'il tourne, le monde tel qu'il est, nous sommes en dehors. C'est juste qu'il faut qu'on compose avec. Et on compose dans ces rapports de force-là. Et si on arrive déjà à les présenter, à les expliquer, à les rendre intelligibles auprès de la population, ça permet aussi de leur montrer aussi que des fois, on peut, et puis des fois, en vrai, on ne peut pas. Parce que la capacité du pouvoir d'agir du citoyen ou de l'élu ou de l'aménageur ou de l'urbaniste, il est limité dans un monde qui fonctionne aujourd'hui tel qu'il est, quoi. Peut-être deuxième citation, c'était Jean Guénaud qui disait que la vraie trahison, finalement, c'est de laisser le monde aller tel qu'il va et d'employer l'esprit à le justifier. Et c'est intéressant comme phrase, parce que finalement, nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on sait que le monde il va tel qu'il va, mais par contre, on essaye d'être plusieurs à mettre notre esprit au service d'un changement du monde. Et ce qui est plutôt rassurant dans ces rapports de force, de domination dont vous parlez, parce que bon, l'intérêt particulier, l'intérêt privé, c'est bien des rapports de force avec l'intérêt général ou l'intérêt du vivant, c'est de se dire à quel endroit nous sommes plusieurs à composer pour essayer de trouver un avenir désirable et qui, au vu des grands enjeux qu'on traverse. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à Saint-Sulpice, on atterrit dans un espace qui est maîtrisable. C'est-à-dire que les problèmes sont mondiaux, les problèmes sont même vertigineux, mais finalement, on arrive à les faire atterrir à une dimension qui est, je dirais, à hauteur de cerveau et à hauteur de main. Là, et même des fois, on parle à hauteur d'enfant, la ville, voilà. Et donc ça, c'est cette capacité à se dire qu'on est à la bonne échelle pour pouvoir agir, qui du coup rassure aussi un petit peu et puis permet aussi de discuter de ces éléments-là. J'ai peut-être fait une digression sur la fin, mais c'est là où ça m'amène.
On aime beaucoup les digressions ici à Radio Court Circuit. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'entends que la démarche participative, peut-être qu'elle va continuer aussi, vous me direz, dans cette prochaine étape du projet de construction. Parce qu'en fait, il y a aussi des choses qu'on comprend grâce à l'usage. Je suppose que vous, dans vos métiers, il y a une dimension, voilà, où vous avez tout un tas de concepts, d'analyses qui vous permettent de planifier, de savoir un petit peu près des sortes de règles presque, on peut dire, un peu scientifiques des phénomènes. Est-ce qu'ensuite, vous vous nourrissez de la pratique, c'est-à-dire de ce qui remonte depuis les habitants, de dire « Ah ben ça, finalement, plutôt ce chemin, finalement, on l'utilise comme ça ». Finalement, il y a 2 ans, on a eu 45 degrés sous le tilleul. Et après, 2 ans plus tard, on a 3 tempêtes en 2 mois. Donc, on avait prévu ci et ça, mais on n'avait pas prévu autant. Alors, comment vous envisagez la suite avec toujours, pour qu'il y ait du dialogue, pas seulement du dialogue, mais de la co-construction avec les habitants ?
Le projet, il n'est pas conçu qu'en plan masse technique, quoi. C'est ça, c'est que c'est un support qui permet de partager, d'avoir des moyens de communication, de pouvoir dimensionner, chiffrer, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de laisser la possibilité de la réversibilité, de pouvoir avoir un espace qui pourrait être multifonction, d'avoir un équipement qui pourra avoir différents usages dans le temps. L'idée de l'intensification des usages, par exemple, elle doit être portée par un projet qui le permet. Ça veut dire qu'on n'a pas une réponse exclusive à une fonction, par exemple, ou qu'on n'a pas un espace qui ne servirait qu'à un type de population, mais on essaye au contraire d'être beaucoup plus transverse, beaucoup plus ouvert. Ça veut dire que dans la construction elle-même, on a anticipé ces possibilités d'évolution. Ça s'appelle l'adaptabilité, quoi. Et donc là, on doit pouvoir produire cette adaptabilité aussi bien dans l'espace public que dans les espaces construits. Ça revient à l'idée du patrimoine. C'est quoi ce que l'on crée aujourd'hui par rapport aux besoins qu'on aura demain ? Et on sait que, par exemple, dans notre cliché un peu là, c'est l'immeuble haussmannien qui est capable d'accueillir n'importe quel usage. Pour autant, au départ, il était bien fait pour dans une conception très précise avec un modèle constructif qui semblait n'accueillir qu'un seul usage au départ. Mais finalement, on s'aperçoit que réfléchir à cette notion de patrimoine nous aide à penser aujourd'hui, mais aussi à assurer les promesses pour demain. Après, il faut aussi de l'humilité et se dire que peut-être ce qu'on avait projeté, ça peut ne pas marcher, mais aussi anticiper que ben, du coup, on savait qu'on pourrait modifier, quoi. Donc il y a une question de posture et puis il y a aussi une perméabilité, une porosité à assurer dans ce qu'on fait, dans la manière de le faire, mais dans les espaces aussi qu'on produit et les moyens qu'on y met.
Je pense que j'interviens aussi parce que nous, dans notre rôle d'aménageur, en fait, même si je disais tout à l'heure qu'on intervient sur les communes de la métropole, chaque contexte est différent, chaque commune a son histoire, ses habitants. Et donc on doit s'adapter, on n'arrive pas avec nos gros sabots à chaque fois en collant un plan masse qu'on a déjà réalisé dans une autre commune, en le collant sur un territoire. Donc ça, évidemment que toutes les premières phases d'analyse, et c'est pour ça qu'on fait de la concertation aussi, alors qui est réglementaire. Et là, à Saint-Sulpice, on va au-delà de cette concertation réglementaire. C'est pas juste les deux ateliers ou les réunions publiques informatives, où on partage l'avancement du projet et les réflexions qu'on a. Là, on va bien au-delà, et c'est évident que on se nourrit lors de ces phases de concertation des habitants, de leur vécu, comment ils vivent la commune au quotidien, et c'est ça qui alimente après le travail de l'urbaniste dans la réalisation de ce plan masse, mais qui n'est qu'une projection et une vision à un instant T. Alors c'est un peu, pour nous, c'est un petit peu compliqué parce que le rôle de l'aménageur, c'est à un moment donné de répondre aussi à des dossiers réglementaires à un instant T où on sait qu'on s'engage sur des opérations sur 20 ans et qu'en fait, en 20 ans, il y a plein de choses qui vont pouvoir changer. Les réglementations environnementales, le coût de l'énergie, qui vont avoir des impacts en fait sur la manière de vivre des gens, de se déplacer et autres. Et donc ça, il n'empêche que à un instant T, on est obligé de répondre à une étude d'impact, déposer une étude d'impact, et que le terrain, le site sur lequel on intervient, et dans les 10 ans, il peut évoluer, il peut y avoir une nouvelle faune qui va se développer. Finalement, faut revenir en arrière, se dire réadapter le projet. Ce terrain-là, finalement, on pourra pas le construire. Donc c'est là aussi tout l'enjeu de ce que disait Joanne, de dire à un moment donné, il faut qu'on produise un plan masse, mais qui soit réversible, adaptable par rapport à l'avenir.
En fait, ce qu'on dit très poliment, c'est très poli ce qu'on dit, c'est que on a tous conscience que ce qu'on est en train de faire, on a la possibilité de se tromper. Et en fait, quand on parle d'innovation, démonstrateur de la ville durable, innovation, etc., etc., changer les modèles, réinterroger, dans 20 ans, les choses vont changer, on a juste acquis la certitude, c'est que les gens que nous sommes aujourd'hui, qui discutons autour de la table, on a accepté le fait que qu'on va se tromper. On peut même partir du principe même que ça, tout ne va pas marcher. Et qu'il va falloir s'adapter. Et je pense que le vrai sujet d'aujourd'hui, la première compétence qui sera sûrement celle des générations à venir, c'est la capacité d'adaptation et de compréhension des dynamiques en place. On a pensé qu'avec, qu'avec le modèle, le modèle des Trente Glorieuses, on pouvait avoir une forme de société mécanique industrielle qui en fait se déconnectait du monde, du vivant, de la nature, des cycles, des saisons, et qui était toute puissante par l'énergie qu'elle absorbait et par le fait de se désynchroniser de la planète sur laquelle on était. C'est ça, c'est le concept même des on appelle ça le concept des lumières. Il faudra qu'on en parle, la question de la notion du progrès. Et donc, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est que si on sait qu'aujourd'hui cette vision un peu linéaire est plus complètement possible, c'est-à-dire qu'il faut accepter que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faudra le remodeler tout le temps. Et donc, c'est plus une question de vision, mais c'est une question de vision et de méthode. Et donc, je pense que ce qu'on veut faire aussi dans les 20 prochaines années, c'est que finalement, la certitude que la manière dont on construit aujourd'hui la ville et dont on construit le territoire, il va falloir... alors moi, j'aime bien le terme de moissonnage, mais parce que c'est aussi ça. C'est avant, on travaillait... Voilà, l'agriculteur, il travaille le sol, il est en prise avec le vivant, en tout cas, dans les principes d'agriculture qui ne seraient pas celles d'aujourd'hui complètement. Mais en tout cas, il y a une idée de dire il faut tenir compte du vivant, il faut tenir compte des saisons, du chaud, du froid, des cycles, de la pluie, du soleil, etc. Et que ça, il y a cette espèce de reconnexion, elle nécessite de repenser la chose. La complexité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut penser comme ça dans un monde physique, administratif, avec lequel on doit composer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de rigidité administrative et réglementaire, de cycles, de règles, parce qu'il faut malgré tout des règles pour composer une société. Il faut quand même définir du droit commun, et que ce droit commun-là, des fois, il est freinant ou antinomique ou asynchrone avec le fait de devoir être dans une capacité continue d'adaptabilité. Donc il y a tout ce sujet de venir articuler des dynamiques qui sont pas complètement faites pour ça à la base. C'est à ça qu'on se frotte. Donc des fois on arrive, et puis des fois on n'y arrive pas. Des fois on bute, et puis des fois on contourne, et puis des fois on réussit. Donc voilà, faut accepter cette incertitude, et je pense que quand on l'a accepté, on vit un peu mieux les choses.
Oui, puis accepter aussi, ce que j'entends, c'est une dynamique du temps. On est pris dans un temps industriel où on s'arrêterait plus même la nuit, et là qu'est-ce qui peut-être change dans un village comme Saint-Sulpice, oui, on fait partie de la métropole, et à la fois, c'est peut-être l'occasion d'apprendre d'autres dynamiques de temps. Oui, bien sûr, injonction économique, etc., mais on sait qu'il y a plein de choses qui vont bouger dans le travail, dans la manière de faire de la richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse ? La richesse économique, est-ce qu'on peut amplier cette notion d'économie à des formes qui ne sont pas forcément salariées et qui font quand même tourner ici les choses. On est entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles aujourd'hui. En face de nous, ici, les bénévoles pour le Guibra, les bénévoles à de la fabrique, les bénévoles à plein d'endroits. Et j'entends qu'ici, ce qui se passe avec cette université du printemps et tout ce projet, et donc ZAC, qu'on va rajouter... au Scrabble, hein. c'est beaucoup d'énergie bénévole, d'énergie qu'on donne pour faire avancer tout ça.
Après, j'ai la parole à Naïg. Juste en deux mots, il faut pas opposer les choses, il faut composer. Et moi, je crois qu'il faut... Entre ce qu'on essaye de faire et le modèle économique tel qu'il marche, en fait, il faut juste faut essayer de composer et d'apporter des ponts ou des passerelles et essayer de changer. Mais les bénévoles que nous sommes, ils sont aussi bénévoles parce qu'ils ont du temps dégagé, parce qu'il y a des systèmes de retraite par répartition et parce qu'ils ont un travail potentiellement qui leur permet d'être disponibles et d'avoir de l'argent pour pouvoir être disponibles pour les autres. Donc on ne peut pas tout opposer. Donc moi, j'aime bien l'idée de composition, c'est-à-dire qu'il faut composer avec là où nous en sommes. Et le sujet, c'est de dire c'est comment on compose et comment on amène des trajectoires. Mais la réalité, elle est complexe. Et si on accepte cette complexité, on est moins radical dans la manière de faire les choses. Et on essaye de composer avec là où les gens sont et là où les gens ont envie de se situer et ont envie de devenir. Donc on prend les forces en présence, on prend les énergies qui sont disponibles. Et on pense que c'est un concept que j'aime beaucoup, c'est que c'est dynamique, ça crée une forme de roue d'inertie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne assez lentement. Hein, la conduite de changement, c'est une roue d'inertie lente, mais comme elle est lente mais puissante, elle permet d'agréger des dynamiques très actives et très... le citoyen, il fonctionne... on peut fonctionner à l'instinct, à l'envie, au besoin, à l'énergie disponible, et donc faut réussir à venir agréger des dynamiques émergentes dans quelque chose qui est plus global, d'une roue d'inertie un peu lente qui apporte le changement. Donc il faut articuler des vitesses rapides et des vitesses lentes pour que du coup cette société elle se fabrique avec quelque chose à deux vitesses.
Moi, ce que ça me dit de voir en fait toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui se sont activées en fait autour de ces universités de printemps, je trouve ça super en fait, et je les remercie. On les remercie au nom de la commune et du projet, mais ça me dit en fait aussi que du coup tous les gens qui sont là, c'est des gens aussi qui du coup ont cette volonté. C'est, je pense qu'on a réussi à amener une volonté commune en fait autour de ce projet en fait de changement, et qui est effectivement un changement dans l'aménagement, mais qui est effectivement avec une envie de changer au-delà de juste la façon dont on construit en fait juste un bâtiment. C'est aussi je pense une volonté de voir le village continuer à être dynamique, à avoir une vie en fait sociale et un engagement citoyen en fait des habitants. Moi ça me touche beaucoup en fait dans l'engagement qu'on a eu, et je me dis, enfin là où je me dis, je pense qu'on se trompe pas sur ce domaine là.
Par rapport à la complexité dont on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que le fait de se projeter comme ça et d'imaginer des « et si, et si, et si », ça permet aussi de se défaire de certains modèles dont on parlait tout à l'heure. Un modèle peut-être que celui avec lequel on a grandi, avec lequel on est abreuvé tous les jours. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler sur ces récits qu'on peut imaginer? Est-ce que ça apporte justement cette complexité à votre avis? Moi, j'ai l'impression que ça, le fait d'ouvrir des imaginaires, ça apporte une certaine complexité, une certaine adaptation aussi dans une manière de se dire, bon d'accord, et si il se passait ça, et si il se passait ça, plutôt que de voir un mur arriver à un moment sans ouvrir ses imaginaires sur des routes possibles qui pourraient être autour du mur, en dessous, au-dessus.
Dans des démarches... moi je suis architecte, donc normalement je suis formée parce que j'ai une certaine créativité, d'accord, et en même temps j'ai le savoir-faire technique pour que ça devienne concret. Mais en fait on s'aperçoit que cette démarche de créativité, elle doit être partagée, c'est-à-dire que c'est pas le domaine particulier de celui qui est dans le métier de l'aménagement ou de la création, d'accord, et on s'aperçoit que pour poser des défis, hein, pour se dire mais comment je vais au-delà parce que là je me sens bloqué, c'est cette approche de créativité, donc de mise en projet, en perspective, qui nous permet de trouver un chemin ou d'éviter le mur ou de se raconter une nouvelle histoire. Mais c'est bien un processus en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut créer des déclics et se dire c'est aussi une manière de se mettre en dynamique et donc de collectivement l'enclencher. On appelle ça les nouveaux récits, mais on se dit aussi que c'est d'essayer d'emmener tout le monde, parce que finalement c'est pas compliqué si on a compris par quel déclic et le processus on pouvait aller. Et on s'aperçoit que du coup cette créativité, ces démarches de créativité, elles peuvent amener vers beaucoup plus d'espoir. Et des fois ça permet des petites prises de conscience qui sont des déclics et qui sont pas forcément des révolutions. Mais du coup, ça permet aussi parfois de passer à l'émotionnel aussi, quand en fait on n'y voyait que des problèmes techniques. Et c'est ça, je pense, la démarche intéressante qu'il faut réussir à emmener. C'est pour ça que le projet nous aide à inventer, mais que tout le monde a accès à l'invention, à la créativité, à la possibilité de se raconter des nouvelles histoires. ça marche assez bien avec les enfants, mais ça marche aussi des fois avec des gros directeurs de services techniques qui, ma foi, sont face à des problématiques qu'ils ne savent plus résoudre. Parce que les solutions de base, elles ne marchaient plus. C'est la complexité qui nous oblige à nous réinventer aussi sur les méthodologies. Mais avec humilité, du coup, en fait, on peut aller chercher des manières de faire d'autres domaines et puis on mixe tout ça. C'est sûr qu'il faut hybrider, hein, parce que si on reste sur nos acquis, ça, on va bugger, hein, c'est sûr.
Ouais, je suis d'accord avec Joanne. En fait, c'est aussi une façon de partager aussi les réalités aussi de chacun, en travaillant comme ça sur les imaginaires et d'échanger et de trouver des fois en l'autre en fait des fois des solutions là où on n'en a pas tout seul. Donc il y a aussi cette idée de partage en fait des réalités de chacun, des questionnements de chacun et de l'imaginaire de chacun et comment en agrégeant tout ça on va trouver à faire ensemble.
Et si on regarde aujourd'hui la question de qui crée les imaginaires, parce que je pense que votre question elle est hyper intéressante. À partir de quoi aujourd'hui on imagine ? Notre génération, la génération actuelle, elle est abreuvée d'imaginaires dystopiques, transhumanistes, en mégapole. C'est ça l'imaginaire dominant que nous avons aujourd'hui. Les plus grandes BD actuelles lues sont du manga. Il y a très peu d'imaginaire, une fois qu'on a sorti Miyazaki, qui parle du champ, du blé, de l'environnement, de la campagne. Donc on est dans des dystopies. Donc on utilise beaucoup l'imaginaire dystopique aujourd'hui. Et donc on essaye de penser le demain dans des mondes qui sont complètement en rupture, gris, noir. C'est le Batman en puissance. Non, mais c'est quand même ça, l'imaginaire qui aujourd'hui a pris une mesure assez forte. Et donc, si c'est ça qui crée nos imaginaires, ou une partie des réseaux sociaux qui transforme complètement la réalité du monde, parce que ce n'est qu'un prisme, bah, le sujet, c'est comment on vient créer des imaginaires nouveaux qui sont non pas des imaginaires numériques, mais du coup des imaginaires vécus. Et ce que dit Anaïg et ce qu'on défend, ce qu'on essaie de construire depuis maintenant 10 ans, c'est en fait qu'il faut créer des imaginaires vécus et des imaginaires nouveaux émotionnels. Et pourquoi on fait les universités de printemps ? Parce qu'on pense qu'on a même la prétention de croire que si on célèbre, si on festoie, si on crée des moments où on est heureux collectivement et où on a une émotion positive dans un environnement défini, ben, ça va créer une mémoire, et c'est cette mémoire individuelle et collective qui va nous permettre d'imaginer demain en se disant que cet espoir-là, il est enraciné. Et du coup, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une opposition à quelque chose, mais qui en fait, on se l'est dit hier soir autour d'un verre au Guibras, en se disant que finalement, c'est ça qui nourrit notre mandat, c'est ça qui nourrit notre... le fait qu'on accepte tout le reste, c'est-à-dire les heures infinies de travail que l'on produit toutes les semaines à créer ça. Parce que c'est absolument énergivore, c'est absolument chronophage, mais c'est absolument passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant si on peut le partager avec les autres et qu'il reste une mémoire émotionnelle de plaisir, de partage et d'espoir. Et je ne sais pas si ça... En fait, finalement, ça n'a pas de prix. Et si on peut... vivre comme ça, moi je trouve que c'est quand même plus. J'attends pas de Batman qui viendra sauver le monde à Saint-Sulpice-la-Forêt, donc du coup, prenons le taureau par les cornes et regardons comment on fait. Quoi. Voilà, c'était à Gotham.
Il est temps de finir ce plateau. C'était le premier plateau en direct de la journée, il y en aura d'autres dans l'après-midi.
Merci beaucoup pour votre participation. On retient du coup de ne pas aller vraiment trop dans la nostalgie. Hein. C'était mieux avant, non ? Ce sera mieux après.
Est-ce que vous avez des idées de reconversion ? Moi, je me disais que je deviendrais bien agente immobilière pour le vivant, donc trouver ou alors créer des habitats peut-être pour les hirondelles, les blaireaux, ce qui permettrait de savoir... Qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux donc construire des terriers peut-être, refaire des trous dans les murs en terre de Saint-Sulpice pour accueillir des chouettes par exemple. Je ne sais pas si vous avez des chouettes effraies ici.
Si, absolument. Et on va refaire des trous pour accueillir les hirondelles dans certains bâtiments.
Mais alors vous, ça serait quoi votre conversion en 2045, s'il y en avait une ?
Je serais à la retraite. Hein.
Ça n'empêche pas de travailler, ça. Il y a le travail et l'emploi.
Ben moi, je crois que je n'ai pas envie de me reconvertir. C'est pas, je vais pas être élu à ad vitam aeternam. Mais ce que je veux dire, c'est la reconversion, ça veut dire que je voudrais changer de ma manière de penser le monde. Et ça voudrait dire que ce que je vis aujourd'hui n'est pas durable dans le temps. Et moi, je pense que ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie, en fait, c'est produire de l'intelligence, moi, être avec des gens et produire du changement à plusieurs. Donc, je ne sais pas à quelle forme ça prendra demain. Ça sera peut-être sûrement pas dans un mandat qui durera jusqu'à la fin du temps. Par contre, il y a plein d'endroits, plein d'espaces encore à inventer pour faire ensemble. Et donc moi, je n'ai pas envie de me reconvertir. J'ai juste envie de donner un prolongement à ce qu'on est en train de faire dans des formes qui sont sûrement différentes. Mais il ne faut pas changer, en fait. Il faut juste continuer. Quoi.
On peut vouloir se reconvertir juste pour faire autre chose dans sa vie.
Ouais, j'entends. Mais je pense que ça renvoie à la question de, ça revient à la question du soi. Mais je pense que moi, le soi, c'est aussi les autres. Donc je pense que ça ne changerait pas.
Très bien. Merci. On peut vous retrouver un petit peu plus tard de 13h30 à 14h30, 14h30, Johan, pour une présentation du projet d'urbanisation. Et Thomas Prigent peut vous retrouver aussi de 14 à 15 pour connaître un petit peu plus comment redynamiser un cœur de bourg d'une commune de 1500 habitants. Voilà, à plus tard.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Radio. Ou avoir des choses sur radio. Check ça.
Radio. Thank you.